commencer cette prédication, j'aimerais vous proposer une petite distinction linguistique. Vous proposer une définition très simple de deux mots, les mots mission et évangélisation. Alors, je vous préviens tout de suite, ces définitions seront extrêmement limitées, pas forcément super exactes. Le but, c'est juste de simplifier. Pour qu'on puisse parler de la même chose, vous et moi, quand on parle de mission ou d'évangélisation, c'est à but purement pratique. Donc, c'est des mots dont les définitions sont extrêmement débattues dans le milieu de la théologie. Mon but, c'est pas rentrer dans ce débat-là. Alors, je vous propose, pour simplifier, comme définition pour la mission, apporter l'amour et la parole de Dieu au loin, par des paroles et des actes d'amour. Et comme définition à l'évangélisation, apporter l'amour et la parole de Dieu auprès, par des paroles et des actes d'amour. En gros, je vous propose d'en faire des quasi-synonymes, mais l'un auprès, autour de nous, l'autre loin de nous. Désolé pour ce côté simpliste des définitions. Mais dans cette prédication, et vous le savez, c'est un peu le sujet central de ce culte, je vais me préoccuper essentiellement de la mission. C'est-à-dire, selon notre définition, excusez-moi, de l'annonce de l'amour et de la parole de Dieu loin de nous, par des paroles et des actes d'amour. Alors, voilà cette distinction faite, et j'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir à une question simple. Pourquoi l'Église doit-elle être missionnaire? Pourquoi avoir ce souci du témoignage, de l'amour et de la parole du Christ dans le monde entier? J'entends déjà ce que certains vont me répondre. Et en effet, c'est avant tout un ordre, un appel, un envoi que le Christ nous lance avant de monter au ciel. Faites de toutes les nations des disciples. C'est vrai, mais cette réponse ne me satisfait pas pleinement. Parce que ça ne répond pas totalement à mon pourquoi. En effet, cet ordre du Christ est déjà une réponse en soi, je suis d'accord. Mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il nous donne cet ordre. Pourquoi tout d'un coup Dieu a-t-il voulu que les croyants aient ce souci de la mission? Pourquoi pas avant? Dieu ne donne pas cet ordre-là aux croyants de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Alors pourquoi le donner aux croyants de la nouvelle alliance? Pourquoi la mission? Quand la mission? Comment la mission? Voilà les grandes questions que j'aimerais que nous étudions ce matin. Et pour ce faire, il nous faut remonter bien avant le Christ et l'ordre de mission qu'il nous donne, jusqu'au tout début de la Bible, les premiers chapitres de la Genèse. Dieu crée le monde, l'univers entier et tout ce qui s'y trouve, et il trouve cela bon. Tout y est parfait. L'être humain vit une relation épanouie avec son Créateur, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mission, dans le sens d'annoncer l'amour et la parole de Dieu, car tous les hommes vivent déjà cette relation avec Dieu. Hélas, vous le savez comme moi, cela ne dure pas. Et l'homme, bien vite, se rebelle contre son Dieu. Il préfère vivre sa vie seule, selon son bon vouloir. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Les hommes vécurent loin de Dieu, ils moururent loin de Dieu et ils passèrent l'éternité loin de Dieu. Ça n'aurait été que justice, laisser l'homme se confronter aux conséquences de ses choix. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous abandonner. Et il a annoncé, dès la désobéissance de l'homme, qu'il enverrait un sauveur qui viendrait pour apporter le pardon aux hommes et pour rétablir la relation entre l'être humain et son Créateur. Et à partir de ce moment, à cause de la désobéissance des hommes, Dieu part en mission. Et sa mission, la voici. Tout faire pour racheter les êtres humains et rétablir sa relation avec eux. Tout faire pour leur donner son amour et son pardon. Nous avons déjà une partie de notre réponse. Pourquoi la mission ? Tout simplement pour ramener les humains vers Dieu, pour leur apporter le pardon nécessaire au rétablissement de cette relation avec Dieu. Cette relation qui seule peut leur apporter la vie éternelle auprès de leur Créateur. Et vous remarquerez que pour le moment, Dieu ne donne aucun ordre aux humains. Il ne leur dit pas de faire quoi que ce soit pour la réussite de cette mission. Tout simplement parce que les hommes en sont incapables. Seul Dieu peut apporter aux hommes son amour et son pardon. C'est pour cela que c'est Dieu qui part en mission, non pas les hommes. D'un monde sans mission, nous passons à un monde avec un Dieu en mission. Voilà donc la racine de la mission, la réponse au pourquoi. Et cette réponse est toujours actuelle, car le but de la mission aujourd'hui est de faire connaître aux humains l'amour et le pardon que Dieu veut leur offrir. Dieu part donc en mission, et il doit le faire seul, sans nous. Les hommes ne peuvent rien. Mais alors, quand Dieu va-t-il agir ? Et quand l'homme va-t-il devoir le rejoindre dans son œuvre de mission ? Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous annonce ce qui va arriver. Et j'aimerais vous lire la prophétie que Dieu donne dans le livre de Joël, au chapitre 3. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'a dit l'Éternel. Il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. J'avais oublié de passer au verset 5, excusez-moi. Tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, nous dit ce texte. Ah, mais c'est bien le but de la mission de Dieu, sauver les hommes, leur apporter son amour et son pardon. Dans ce texte, il est donc bien en train de nous annoncer quand cette mission se réalisera. Alors, que nous dit-il à ce sujet ? Il nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Et plus loin, alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Après cela, qu'est-ce que donc que ce cela ? C'est ce que Dieu a déjà annoncé depuis le début de la Genèse et que nous attendons toujours au moment où cette prophétie est donnée dans l'Ancien Testament. C'est tout simplement la venue de ce fameux Sauveur que Dieu a promis. Avant de pouvoir rétablir sa relation avec l'être humain, Dieu doit faire ce qui est nécessaire pour pouvoir pardonner aux hommes tout le mal qu'ils ont fait. Et pour un Dieu parfaitement juste, transformer un coupable en innocent, ça ne se fait pas comme ça. Parce que lorsqu'on est juste, le coupable est déclaré coupable et l'innocent est déclaré innocent. Alors, comment pardonner au coupable que nous sommes ? Eh bien, le seul être innocent qui existe, c'est-à-dire Dieu lui-même, doit venir payer à notre place le prix de nos fautes. Et Dieu l'a fait. En Jésus-Christ, Dieu est devenu un homme afin de venir nous révéler
l'amour de Dieu, afin aussi de mourir comme un coupable, alors qu'il était le seul être parfaitement innocent. Tout cela pour pouvoir déclarer à son tour innocent tous les coupables et pour pouvoir accueillir comme ses enfants tous ceux qui accepteraient de recevoir ce qu'il avait fait pour eux. En Jésus-Christ, ce Dieu en mission est passé à l'action. Il est venu réaliser le but de sa mission, apporter aux hommes son amour et son pardon. Voilà ce que c'est que cet « après cela ». Ce n'est rien d'autre que la venue du Christ qui vient pour accomplir le pardon de Dieu et nous révéler son amour. Mais s'il y a un « après », c'est qu'il reste autre chose à venir dans notre prophétie. Une fois que Dieu a fait ce qui était nécessaire pour nous déclarer innocents, enfin plus rien ne s'opposait au rétablissement de cette relation que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous. Et pour rétablir cette relation, Dieu a continué son œuvre de mission. Il est venu, lui-même, en personne, en chacun des croyants. Dieu a répandu son esprit sur tous ceux qui avaient accepté le Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et depuis, Dieu est présent dans les croyants par son esprit pour les guider, pour leur donner son amour, pour leur apprendre à le connaître et pour vivre une relation personnelle et intime avec leur Créateur. C'est ce que nous vivons, nous qui avons accepté le Christ dans notre cœur, ou c'est ce que nous pouvons vivre si nous en faisons le choix, si nous acceptons tout simplement ce cadeau gratuit que Dieu nous offre. Mission accomplie, j'ai envie de dire, et si nous en doutons, nous pouvons écouter le témoignage de l'apôtre Pierre. Écoutez ce qu'il affirme peu après que les disciples aient reçu ce cadeau de l'Esprit de Dieu. Écoutez ce qu'il dit à la foule qui ne comprenait pas ce qui était en train d'arriver à ces hommes et femmes qui recevaient l'Esprit du Seigneur. Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule : Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et il leur récite alors la prophétie de Joël chapitre 3, celle-là même que nous avons lue et que nous avons rapidement étudiée ensemble. Depuis la Genèse, nous avions un Dieu en mission. En acte 2, nous pouvons dire mission accomplie. La prophétie de Joël est accomplie à ce moment-là. Dieu a fait le nécessaire pour pardonner aux hommes et pour venir en eux, par son esprit, rétablir cette relation qu'il désirait tant dans son amour pour nous. Mission accomplie, mais pas encore totalement achevé. En acte 2, très peu de personnes acceptent et reçoivent ce cadeau de la part de Dieu. Il faut maintenant que ce cadeau puisse se répandre dans le monde entier. Et c'est alors que Dieu nous demande de le rejoindre pour participer à sa mission. C'est alors que le Christ nous appelle, nous envoie pour œuvrer aux côtés de Dieu dans cette grande mission pour le salut des hommes. Et je vous relis les dernières paroles que le Christ laisse à ses disciples avant de retourner au ciel. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Dès lors que nous recevons le pardon de Dieu en Christ et l'Esprit de Dieu en nous, nous devenons les équipiers de Dieu dans sa mission. Sa mission qui devient notre mission. annoncer au monde entier la parole de Dieu, son amour et son pardon. Faire ce que Dieu a tout simplement fait pour nous en premier, transmettre le cadeau que nous avons reçu, ne pas le garder pour nous, mais le partager. Car Dieu n'a pas œuvré que pour quelques-uns, mais pour le plus grand nombre. Et il nous appelle à révéler aux hommes son amour et son message de salut, par nos paroles et par nos actes. Cela, nous devons tous le faire auprès de nous. C'est ce que je vous ai proposé de manière très simplifiée d'appeler l'évangélisation. Mais certains d'entre nous sont aussi appelés à le faire au loin, selon les paroles du Christ, jusqu'au bout du monde. Et c'est cela que je vous ai proposé d'appeler la mission. Transmettre ce que nous avons reçu, offrir le cadeau que Dieu nous a fait. C'est l'esprit même de l'œuvre missionnaire. Ce matin, nous accueillons avec le plus grand plaisir une œuvre qui partage et qui participe à cette mission, l'association AZER. Une œuvre qui peut être pour nous un exemple de réponse à l'appel que Dieu nous lance. Cet appel à transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. Et je vais laisser maintenant la place à Carole Sautel qui va nous présenter tout d'abord la vision et le but de cette œuvre missionnaire.
Bonjour à tous. Donc juste pour vous rappeler, même si je suis déjà venue ici deux fois, je vous redis ce que c'est AZER. AZER, c'est pas une marque d'ordinateur. C'est association de soutien aux enfants de la rue. Et spécialement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. AZER s'occupe de trouver des familles de parrainage, ici en France, et des fonds, disons, et de soutenir moralement, spirituellement, matériellement, Mouna, qui est la présidente d'AZER et qui habite à Kinshasa depuis plusieurs années, et qui travaille en collaboration avec une association locale qui s'occupe au quotidien des enfants de la rue, avec les éducateurs, en fournissant une maison, la nourriture, en faisant tout le suivi médical, scolaire, spirituel, etc. J'aimerais juste revenir un peu sur les conditions des enfants de la rue à Kinshasa, et après je vous parlerai vraiment d'AZER. Donc, les enfants de la rue, là-bas, ils sont environ 20 000. Alors les chiffres sont... on en trouve plusieurs sur Internet, mais on estime qu'ils sont à 20 000 enfants dans la rue, c'est énorme, simplement à Kinshasa. Et les causes principales, donc les raisons pour lesquelles ils sont dans la rue... D'abord, Kinshasa, c'est là. Les raisons pour lesquelles ils sont dans la rue, c'est qu'ils sont accusés de sorcellerie la plupart du temps. Alors, il y a toute une problématique par rapport à la sorcellerie et à l'occultisme là-bas qu'on connaît peu ici. Mais l'accusation de sorcellerie là-bas est souvent fausse pour les enfants. Un exemple typique qui peut se passer, c'est que des enfants perdent un parent, par exemple la maman. Le papa se remarie et quand il se remarie, la belle-mère, elle veut pas assumer les autres enfants et elle va accuser les enfants d'avoir tué la belle-mère, la mère par exemple, de l'avoir mangée, comme disait Jonas dans le film. Donc c'est extrêmement violent, les accusations. Et les enfants, soit sont jetés à la rue, soit ils sont envoyés dans des églises très, très non chrétiennes, disons, qui se disent chrétiennes, mais qui font leur business sur ces accusations de sorcellerie, et qui, moyennant 50 ou 100 dollars, vont faire des séances de délivrance avec les enfants, et c'est des séances de maltraitance, en fait, qui durent plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc l'enfant va finir par fuir, souvent, parce qu'ils préfèrent vivre dans la rue que de subir les mauvais traitements. Ça peut être des jeûnes, un jeûne forcé très long, des coups, d'un enfermement. Enfin, voilà, c'est assez terrible ce qui se passe là-bas. Et du coup, l'image que les enfants de la rue ont de Dieu, souvent, et des églises, c'est que ce sont eux qui les ont mis à la rue. Donc après, il se retrouve dans la rue. Cet enfant-là qui a été accusé d'avoir mangé sa mère, il se retrouve dans la rue. Et c'est quoi les principaux dangers auxquels il est confronté quotidiennement? C'est la violence de la part des autres jeunes de la rue, de la part des militaires aussi, qui peuvent se déchaîner sur plus faibles qu'eux, parce qu'ils sont très maltraités par eux-mêmes, par leur hiérarchie. Les viols aussi, de la part des autres enfants de la rue et de la part des militaires également. Et puis, leur combat quotidien, c'est de trouver un endroit pour manger, pour dormir, pour se laver, pour se droguer aussi, parce que pour oublier les conditions terribles qu'ils ont dans la rue, et ben, ils vont chercher du chanvre ou des drogues vraiment pas chères, quoi. Et ils sont méprisés et ils sont craints en plus par la population congolaise. J'ai parlé de la drogue, mais il y a l'homosexualité aussi, qui est très très présente. Et puis tous les risques aussi d'être enrôlé soit dans des milices, soit dans des groupes qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Donc, Azer, dans tout ça, c'est avant tout une présidente qui s'appelle Mouna, qu'on voit ici sur une photo qui date un tout petit peu de quelques années. Mouna, elle vit depuis 6 ou 7 ans à Kinshasa. Et elle-même a vécu l'abandon quand elle était petite. Elle a vécu beaucoup de blessures liées à cet abandon-là. Et un jour, quand elle a appris l'existence des orphelins, elle s'est dit « Moi, un jour, j'adopterai tous les enfants du monde. » Et elle a grandi avec ce rêve-là. Et quand elle s'est convertie vers 20 ans, 22 ans, elle avait beaucoup de blessures et elle a rencontré Dieu d'abord et puis un chrétien qui l'a pris sous son aile et qui a été vraiment comme un père adoptif pour elle. Et dès ce jour, elle s'est dit, moi je veux redonner ce que j'ai reçu, quoi. Elle avait gardé ce désir d'adopter tous les orphelins du monde. Et puis en même temps, elle avait reçu énormément de guérison de la part de Dieu, alors elle avait vraiment quelque chose à redonner. Donc Azer s'est créé autour de Mouna. L'année où elle est partie vivre là-bas définitivement, c'est là que Azer s'est créé avec une équipe de bénévoles pour la soutenir et pour chercher des familles de parrainage ici pour les enfants qui étaient pris en charge là-bas. Alors la vision d'Azer, comme l'a dit le pasteur, et c'était une super introduction, c'est la transmission. Il nous a parlé d'offrir le cadeau que Dieu nous a fait, et c'est exactement l'esprit d'Azer, en tout cas de la création d'Azer, l'esprit dans lequel est partie Mouna aussi, puisque Mouna, donc je vous ai dit, elle a reçu, elle donne maintenant ce qu'elle a reçu, et elle vit, son engagement va même jusqu'à ce que maintenant elle vit avec 3 jeunes qui sont des anciens enfants de la rue, qui sont pris en charge depuis plusieurs années, et elle vit avec eux pour leur donner les meilleures conditions. La transmission, c'est aussi ce qui pousse les bénévoles d'Azer, donc nous, à redonner aussi ce qu'on a reçu là où on est et à essayer de transmettre cette vision-là et ce besoin criant des enfants là-bas qui n'ont rien. Parce qu'on a reçu aussi beaucoup d'amour de notre Père céleste. Et la vision, enfin, c'est que les enfants là-bas puissent grandir, recevoir ce dont ils ont besoin, arriver à une autonomie et pouvoir eux-mêmes retransmettre un jour aux autres enfants de la rue ce qu'ils ont reçu. Il y en a déjà plusieurs qui sont dans cette optique-là. Et je vous montre juste deux beaux exemples. Caleb. Donc, à gauche, c'était il y a plusieurs années. C'était même pas au tout début de la prise en charge de Caleb, mais on approche. Et puis à droite, c'est en 2014. Il a 20 ans maintenant. Il est toujours parrainé, il est à l'université. Et il a commencé à écrire un livre qui est très brillant. Moi, j'ai lu, j'ai fait deux séjours là-bas à Kinshasa, et j'ai lu un bout de son livre, et c'est vraiment très intéressant, sur les enfants de la rue. Et il aimerait créer une association pour les enfants de la rue là-bas, une association d'enfants de la rue, pour les réunir et pour qu'ils essayent eux-mêmes de faire quelque chose pour sortir de leur situation. Alors, c'est une vraie bénédiction. Et l'autre enfant, c'est Jonas, pas le même que celui qu'on a vu dans la vidéo, un autre. Donc à gauche, c'est pareil, c'est au début de sa prise en charge, il est petit. Et puis à droite, c'est lors de son baptême en 2014, en avril 2014. Et Jonas, il s'est vraiment converti en 2014 et il est un moteur au niveau spirituel. Il est très impliqué dans l'accompagnement des nouveaux enfants qui sont parrainés. Il fait... de l'accompagnement spirituel individuel et collectif. Il leur fait comme l'école du dimanche un peu. Et c'est une lumière à la fois dans la maison dans laquelle il vit, qui est la maison de l'espoir, et à la fois pour justement tous les nouveaux enfants parrainés. Donc c'est ça la vision d'Azer, c'est ça le désir de Mouna, d'Azer, et on pense de Dieu pour ces enfants-là, c'est qu'ils puissent eux-mêmes devenir acteurs pour les autres enfants de la rue. Et qui reçoivent le maximum pour qu'ils puissent redonner un maximum.